Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu. Médias et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture. Avec un invité de marque, c'est peu de le dire, dans notre deuxième heure marquée culture, le président François Hollande. Il publie un album illustré, Leur État, expliqué aux jeunes et aux moins jeunes, avec certaines définitions et mises au point bien nécessaires en ces heures troubles, puisqu'il est question par exemple de santé publique et de laïcité. Il y aura en prime le portrait inattendu de François Hollande par Hélène Manarino. Notre info média du jour concerne ce vent de fronde qui souffle contre les médecins, pas quand ils œuvrent auprès des patients, mais quand ils pérorent sur les plateaux de télévision et disent parfois une chose et son contraire à quelques semaines d'écart. Pourquoi les chaînes continuent-elles à les inviter? Oui, mais comment faire autrement? Réponse avec Margot de Frouville de BFM TV et Bastien Morassi de LCI. On va également parler santé et presse écrite. Certains professionnels auraient voulu que l'hebdomadaire Le Point ne publie pas son traditionnel classement des hôpitaux et des cliniques 2020, mais l'hebdo n'a pas cédé. Nous serons avec son directeur Étienne Gernel et Jérôme Vincent, le journaliste qui a coordonné cette énorme enquête de 80 pages. En ce jour particulier, après les annonces hier soir du président Macron, nous sommes comme toujours en direct, pas en vacances. Vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, c'est quoi le sommaire du jour?
Les faux cris dans les stades ont disparu, les collèges se mobilisent pour la liberté d'expression, le box-office était enfin en forme et évidemment le score de l'allocution d'Emmanuel Macron.
Mais on commence évidemment par les audiences du Prime. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
C'est France 2 qui était en tête des audiences avec les épisodes 3 et 4 de 10% saison 4. En moyenne, 3,7 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 15,8% de part d'audience en très légère baisse sur une semaine. M6 est deuxième avec un nouvel épisode du meilleur pâtissier. Julia Vignali, Cyril Lignac et Mercotte ont diverti 3,1 millions de personnes pour une part d'audience de 14,5%. Et comme mardi soir, TF1 s'est contenté hier de la troisième position avec une série médicale américaine. Après son retour très décevant la semaine dernière, Grey's Anatomy affiche 3,1 millions de téléspectateurs au compteur et 12,7% de part d'audience. Elle reprend des couleurs, mais pour la première fois, la série cède son leadership historique sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, elle pointe à 24% de PDA, soit un point de moins que M6.
Culture Média.
Et vous commencez ce journal des médias avec l'audience de l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir.
À partir de 20h, le président a annoncé le reconfinement. À partir de ce soir minuit, il s'est adressé aux Français pendant 22 minutes et 5 grandes chaînes l'ont retransmis. TF1, France 2, M6, TMC et C8, sans parler évidemment des chaînes info. On aura, comme d'habitude, l'audience des chaînes info qu'un peu plus tard dans la matinée. Mais sur les 5 autres chaînes, 29,7 millions de Français ont suivi le discours d'Emmanuel Macron pour 85% de part d'audience. En tête, TF1 à 13,7 millions, suivi de France 2 à 11,6 millions. En mars, l'annonce du premier confinement avait réuni plus de 35 millions de téléspectateurs, soit plus de 86% de part d'audience.
Et on en parlera évidemment avec François Hollande qui sera notre invité. On parlera également de l'annonce du reconfinement qui implique la fermeture des cinémas dès ce soir, Charles, pour au moins 4 semaines.
Emmanuel Macron ne les a pas mentionnés spécifiquement, mais les salles de cinéma vont devoir fermer leurs portes ce soir, comme les salles de spectacle et plus largement tous les commerces considérés comme non indispensables. Et c'est un coup dur pour le secteur qui avait reçu l'assurance du gouvernement il y a à peine 10 jours de son soutien. Cette fermeture intervient en plus après une semaine record de fréquentation entre les vacances scolaires et la sortie de plusieurs gros films. 3,2 millions de personnes se sont rendues au cinéma du 21 au 28 octobre. C'est un record depuis février. En tête du box-office, Adieu les cons d'Albert Dupontel, avec un tout petit peu plus de 600 000 billets vendus, soit le meilleur démarrage de sa carrière. Mardi, dans le journal, on saluait déjà son premier week-end très prometteur, qui avait dû calmer les inquiétudes du réalisateur quant à une sortie en octobre. Et bien finalement, Albert Dupontel avait raison, la carrière de Adieu les cons s'arrête, du moins pour l'instant. Quand les salles rouvriront, les films à l'affiche et surtout les films sortis hier, ils seront à nouveau proposés, une deuxième chance pour beaucoup, d'autant que la concurrence sera plus calme, les nouveautés qui étaient attendus dans les salles dans les semaines à venir seront reportés, à commencer par le très attendu Aline de Valérie Lemercier. Hier, la comédienne et réalisatrice a avoué qu'elle espérait une sortie fin décembre, mais qu'elle s'en remettait aux producteurs et aux distributeurs du film pour trancher cette question.
La Seine-Saint-Denis a lancé hier un appel baptisé 130 collèges publics, 130 journalistes.
Le département souhaite que ces 130 collèges bénéficient tous d'un parrain ou d'une marraine issue du journalisme ou du dessin de presse afin de défendre la liberté d'expression et de lutter contre les fake news et les théories du complot. Cette initiative intervient quelques semaines après l'assassinat du professeur Samuel Paty, tué pour avoir montré les caricatures de Mahomet à ses élèves. Mais cette volonté de lutter contre l'obscurantisme n'est pas nouvelle en Seine-Saint-Denis. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, les journalistes sont régulièrement invités dans des collèges du département pour y expliquer leur métier, dévoiler les coulisses de la préparation d'une émission ou d'un journal, aider à dénicher les fausses informations ou encore à croiser ses sources. Il peut s'agir d'interventions de quelques heures seulement ou de projets d'accompagnement sur plusieurs semaines. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, a expliqué à Louise Bernard que l'initiative était née d'une volonté d'aider les professeurs sur le terrain.
J'ai absolument pas ni de se substituer ni de remplacer les enseignants, bien au contraire, parce que cette initiative, elle se fait en partenariat avec l'éducation nationale. Et donc, c'est simplement d'ajouter au programme de l'éducation nationale et aux côtés des enseignants, eh bien, des ressources complémentaires, des regards complémentaires pour, au contraire, être à leur côté et les aider dans leur mission. Mais aussi renforcer cette éducation, renforcer cet apprentissage, cette appropriation des valeurs de la République, parce que face au déferlement à la fois sur les réseaux sociaux de haine, de fausses informations, de rumeurs, eh bien, je crois que c'est notre responsabilité collective, tous les adultes, tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre à l'éducation des enfants de notre pays, eh bien, nous avons voulu aller plus loin.
Voilà le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis au micro de Louise Bernard. Et puis Philippe, vous m'aviez confié une mission hier.
Mais oui, mardi soir, donc avant-hier, j'ai regardé le match OM Manchester City sur RMC Sport, match de Ligue des Champions, 3-0 pour Manchester, mais j'ai surtout été surpris par le silence de cathédrale qui régnait dans le stade. On écoute.
C'est lui qui va frapper ce corner. Le premier corner de la partie. Et la remise de la porte. Il faut y être dans les duels. Et il y aura une faute. Coup de sifflet de l'arbitre.
Et encore, là, il se passait quelque chose sur le terrain. On se croirait un match de cadet un dimanche matin. Et les matchs se jouent évidemment sans public à cause des restrictions sanitaires. Mais à l'antenne, il n'y avait plus les sons de foule qui étaient intégrés au mixage, comme c'était le cas depuis la finale au Portugal de la Champions League. Le final à 8. Et pas mardi. Et hier non plus pour les matchs du PSG ni de Rennes. Et j'avoue que je n'ai pas réussi à savoir pourquoi.
Eh bien, ça tombe bien. J'ai la réponse pour vous. Effectivement, à la fin de la saison précédente, il y avait ces chants de supporters lors des retransmissions des matchs. C'était une demande de l'UEFA, l'Union des associations européenne de football. Mais pour la nouvelle saison, elle a changé de position. Elle laisse désormais la possibilité à la chaîne qui diffuse et qui produit chaque match de proposer ses ambiances ou non. Vous étiez devant RMC Sport mardi, Philippe, et la chaîne était non seulement diffuseur, mais également en charge de la production du match OM Manchester City. Et c'est elle qui a fait le choix de se passer des bruits de public. La chaîne Téléfoot a fait le même choix pour les matchs dont elle aura la charge.
Même du point de vue du téléspectateur, c'est quand même beaucoup moins bien. Pourquoi les chaînes ont-elles fait ce choix, Charles ?
D'abord parce que c'est un peu compliqué à faire en direct et que des téléspectateurs s'étaient plaints de l'utilisation de ce procédé à la fin de la saison dernière, mais aussi, évidemment, parce que ça coûte de l'argent. Pour intégrer ces sons, il faut une personne dédiée qui doit préparer en amont ces sons de supporters, les nettoyer pour éviter des insultes, par exemple, puis les diffuser au bon moment, selon ce qui se passe en direct. Mais la règle varie selon la chaîne qui produit les matchs. En Europe, la moitié des chaînes ont fait le choix du silence pour les matchs qu'elles produisent. L'autre moitié ont fait le choix de l'ambiance.
Merci beaucoup, Charles Decan. À demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour qui va parler des médecins très demandés sur les chaînes d'info, chaînes qui ont tendance à véhiculer des analyses contradictoires au fil de leurs nombreuses interventions sur les plateaux télé. Pas les chaînes, surtout les médecins. On sera avec la chef du service santé de BFM TV, Margot de Frouville, et le directeur de la rédaction de LCI, Bastien Morassi. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Les archives sont parfois cruelles et certains médecins s'en sont aperçus ces derniers jours. Il n'y aura pas de seconde vague, disait-il au printemps ou à l'été dernier. Perdu. Le rebond de l'épidémie de Covid-19 est bien là, à tel point que le chef de l'État a annoncé un nouveau confinement hier soir. Conséquence, la parole de ces médecins est abîmée, leurs compétences sont contestées, critiquées, et pourtant, on les voit encore dans plusieurs médias, en particulier sur les plateaux des chaînes info. Pourquoi continuer à les inviter ? À qui donner la parole sur un sujet aussi sensible ? Comment choisir ? Et plus largement, comment traiter l'information scientifique à la télévision ? Pour tenter de répondre à ces questions, deux invités. Bonjour Margot de Frouville.
Bonjour Philippe Vondel.
Vous dirigez le service santé de BFM TV à distance avec nous. Bastien Morassi, bonjour.
Bonjour Philippe Vondel.
Vous êtes le directeur de la rédaction de LCI. On va commencer par une colère. C'était avant-hier sur BFM TV. C'est Gilles Pialoux. Il est le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. On l'écoute.
Il y a eu une responsabilité individuelle des gens qui n'ont pas arrêté de marteler
qu'il n'y avait pas de reprise du virus, qu'il n'y avait pas de circulation, et pire encore, que certaines mesures barrières n'avaient pas leur efficacité scientifique. On a marché sur la tête.
Margot de Frouville, vous comprenez la colère de Gilles Pialoux sur BFM ?
Bon, il n'est pas le seul, je crois, à avoir poussé un coup de gueule ces derniers jours. Pour bien comprendre comment on marche, nous, chaîne d'info continue, il faut bien réaliser qu'on a 20 heures de direct sur 24, qu'il y a des programmateurs pour chaque émission. Ce n'est pas moi qui appelle les médecins pour les 20 heures, heureusement. Et qu'il faut évidemment renouveler les plateaux. Au début, c'est vrai qu'on a voulu avoir des avis différents sur l'épidémie, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont pu se tromper et donc on a arrêté d'inviter... il y a plus d'un mois maintenant.
Bastien Morassi, je vous pose la même question qu'à Margot de Frouville. Pardon, comprenez-vous la colère de Gilles Pialoux ?
Oui, oui, bien sûr, elle est évidemment compréhensible. Moi, je rejoins tout à fait ce que dit Margot. Il faut quand même savoir que les chaînes info, LCI comme BFM, j'imagine, on n'est pas là pour décerner les bons ou les mauvais points, nous, sur les médecins, pour donner le trophée du médecin de la semaine ou de l'expert scientifique du mois. Il faut bien comprendre que les scientifiques sont là pour apporter une expertise et justement essayer de comprendre cette épidémie qui est quand même historique et qui est difficilement analysable en temps réel. Or, ouais. le temps réel, c'est justement ce qui fait l'ADN d'une chaîne info. Et donc, il faut essayer de comprendre cette épidémie comme elle avance. Et c'est vrai que les personnes qu'on fait venir, et moi, je pense par exemple à Martin Blachier, qui est un épidémiologiste reconnu, il a fait une sorte de mea culpa sur le plateau de LCI en disant, bah oui, mais nous, on s'est aussi fait avoir par les chiffres parce que on essaye de comprendre cette épidémie qui est vraiment hors du commun. Donc ouais. Il faut aussi savoir que cette analyse n'est pas forcément évidente au jour le jour.
On va l'entendre tout à l'heure, Mathieu Blaché. Je vous pose la question, Bastien Morassi, parce que les quelques médecins que Pialoux vise étaient invités sur l'antenne de LCI. Christian Perron le 16 juin, Jean-François Toussaint, Didier Raoult avant-hier, on va y revenir. Laurent Toubiana qui disait il y a un mois et demi, la théorie de la deuxième vague est complètement folle et fabulatrice. Et là, c'est difficile de contredire un expert Bac plus 10.
Oui, alors enfin un expert Bac plus 10, bien sûr, mais enfin je vais prendre l'exemple de Didier Raoult. C'est son CV n'est remis en cause par personne. Ouais. C'est un excellent scientifique et donc sa parole, elle a aussi du poids dans la communauté scientifique. Donc c'est vrai que nous on essaye justement de recevoir ces différentes personnalités pour que le téléspectateur puisse se faire un avis. Mais vous savez les personnes qu'on fait venir sur le plateau de LCI, on leur demande aussi un argumentaire, c'est-à-dire que quand ils viennent expliquer qu'il n'y a pas de seconde vague ou au contraire qu'il va y avoir une seconde vague, ils viennent avec des chiffres, ils viennent avec des courbes et après, aux téléspectateurs de se faire un avis en fonction de ces datas. Nous, on croit beaucoup aux datas. On accompagne d'ailleurs les scientifiques qu'on fait venir sur des plateaux avec des journalistes maison qui récupèrent des informations des autorités sanitaires, les ARS, Santé publique France, pour justement accompagner ces expertises.
Vous parlez...
il faut savoir que le constat, tout le monde fait à peu près le même constat, autant T, c'est-à-dire de savoir qu'il y a tant de cas aussi. Mais après, c'est analyser l'évolution de la courbe qui est difficile et c'est là que les avis scientifiques divergent.
Il y a un médecin qui travaille à l'hôpital Bichat qui a écrit ceci sur Twitter. LCI et CNews ont déclaré la guerre à l'info scientifique et médicale de qualité et sont le repère de désinformateurs. J'ai décliné plusieurs fois leur invitation et je pense qu'il faut éviter de les regarder. Qu'est-ce que vous leur répondez en quelques mots, si tant est qu'on puisse répondre en quelques mots à cette personne, Bastien Morassi?
Moi, je trouve que c'est une attaque qui est difficile à notre encontre parce que on donne vraiment la parole à des scientifiques de qualité. LCI, je vous le rappelle, c'est la chaîne de télé qui a organisé la première soirée où on avait sur le même plateau le ministre de la Santé, Olivier Véran, des médecins
présentés par David Pujadas, qui était venu en parler ici.
Voilà, présenté par David Pujadas. On a renouvelé ce genre d'émission avec Édouard Philippe dans une codiffusion sur TF1 et sur LCI. partie. Et puis nous, on a donné aussi la parole à différentes personnes. On a fait émerger aussi des scientifiques, je pense à Karine Lacombe, Xavier Lescure, qui sont venus sur notre plateau et qui ont sonné l'alerte, sonné l'alarme sur une seconde vague.
Pardon de vous interrompre, je me tourne vers Margot Trouville, on a entendu et beaucoup de médecins. Il y a un nouvel adjectif qui est arrivé, ce sont les médecins rassuristes qui ont beaucoup été invités sur l'antenne de BFM TV. Que répondez-vous à ces médecins en colère et à ce public en colère de cette part trop belle donnée aux rassuristes?
Déjà, ça fait plus d'un mois davantage qu'on ne les a pas vus à l'antenne. Après, je pense que d'un point de vue journalistique, ça peut être intéressant d'entendre des points de vue différents, à condition qu'on apporte une contradiction avec des faits. Vraiment, c'est ça le nerf de la guerre, apporter de la contradiction, du factuel. Et en fait, dans cette épidémie, il faut être bien clair, tous ceux qui ont dit « je sais », ils se sont plantés. Donc, dès lors qu'on disait « il n'y aura pas de deuxième vague » ou « ce qui se passe n'est pas grave », il prenait clairement le risque de se tromper.
Je veux dire, ce qui m'a frappé en tant que téléspectateur, et on est une émission média ici, on n'est pas une émission scientifique, c'est que j'ai vu sur plein de plateaux, je ne vais pas les citer parce que j'ai l'impression d'avoir entendu cette question presque une centaine de fois, sur toutes les chaînes, les grandes chaînes et les chaînes d'info. Il y avait un journaliste en plateau qui interrogeait un spécialiste et qui lui disait « qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer ?» Et pour ma part, je n'ai pas envie d'être rassuré, j'ai envie d'être informé. Et si l'information me rassure, tant mieux, mais si elle m'inquiète, eh ben, il faut passer par là. Vous comprenez le sens de cette chose-là? Est-ce que c'est pas une question...
Ça fait du bien aussi d'avoir de l'espoir. Mais
oui,
après,
mais est-ce que dans l'intitulé, on demande à la personne de vous rassurer? Est-ce que c'est pas tourner le dos à l'information factuelle?
C'est peut-être pas antinomique, mais en tout cas, moi je me rappelle Laurent Toubiana, pour ne pas le citer, qui était venu en plateau et qui avait dit à une journaliste de mon service, les chiffres que vous donnez sont faux. Et après, en fait, on en avait discuté et il s'était excusé. Il m'a dit non, en fait, je voulais pas dire que les chiffres étaient faux, mais c'est l'interprétation qui en est faite qui est fausse. Mais après, l'interprétation, elle se discute. Mais dès lors que des scientifiques prennent après une posture un peu politique, je pense qu'il est plus sage de donner la parole à des médecins qui voient des patients, à des médecins libéraux en ville ou des médecins hospitaliers qui sont pour le coup au front, et ce sont eux qui ont alerté il y a déjà plusieurs semaines sur la marée montante de patients.
J'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, rassurez-vous, on revient tout de suite. On est avec Margot Trouville et avec Bastien Morassi. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV, et Bastien Morassi, directeur de la rédaction d'LCI, on parle des médecins invités sur les plateaux de télévision et ce nouvel adjectif qui est arrivé, rassuré, c'est-à-dire le médecin qui arrive sur le plateau pour vous, entre guillemets, rassurer. Pour comprendre la colère de très nombreux autres médecins qui regardent ça de chez eux, il faut revenir aux paroles prononcées par ces dits rassuristes. Exemple, Didier Raoult, peut-être le plus célèbre d'entre eux, nous sommes fin avril, à 2 semaines de la fin du confinement, et le professeur marseillais constate que la courbe de l'épidémie descend.
C'est la courbe typique des épidémies. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc l'histoire de rebond, c'est une fantaisie qui a été inventée à partir de la grippe espagnole qui a commencé l'été. Donc il n'y a rien à voir.
Pas de rebond, une fantaisie inventée, disait-il en avril. Mais il y en a eu un de rebond, une deuxième vague. Est-ce qu'il s'est trompé? Non, dit-il. Pas au moment où il parlait. Est-ce qu'il prononcerait à nouveau ces phrases-là? Pas tout à fait. Voici sa réponse. C'était avant-hier sur LCI. Il était face à David Pujadas.
Ce que je n'avais jamais vu et que donc je ne prédisais pas, je prédis rien, mais ça, j'ai dû dire à un moment, écoutez, ça me paraît hautement improbable, c'est que une population qui avait vu passer une épidémie puisse faire dans les 3 mois qui suivent une autre épidémie, et quelque chose que je ne prédisais pas, qui n'a jamais été vu dans les infections virales respiratoires, qui est quelque chose de nouveau, et qui est expliqué de mon point de vue par le fait qu'il y a des variants qui sont résistants à l'immunité acquise par le premier variant. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Je ne savais pas que ça pouvait exister.
Je ne pouvais pas prévoir une deuxième vague puisqu'on n'en avait jamais vu avant, dit Didier Raoult. Pourtant, d'autres médecins avaient vu venir cette deuxième vague. Ils l'avaient annoncé, ils avaient été moqués. Bastien Morassi, pourquoi inviter encore Didier Raoult?
On continuera, nous, à inviter le professeur Raoult. Hein. Comme je vous l'ai dit, que l'on soit d'accord ou non avec lui, son parcours parle pour lui. C'est un spécialiste des maladies infectieuses, c'est un professeur de microbiologie. Moi, je pense qu'il s'est défendu. C'est une courbe qui est atypique, c'est une épidémie qui est historique et à vrai dire, hors du commun. Les projections ne sont forcément pas évidentes. Les analyses du professeur Raoult sont-elles scientifiques, c'est-à-dire qu'à l'instant T, il a une analyse scientifique qui est imparable. Après, les projections, elles sont difficiles. Et oui, il n'a pas vu venir la seconde vague, il l'a reconnue. On continuera à l'inviter.
Même question à Margot de Frouville. Vous l'avez déjà interrogé, Guy Raoult, vous continuerez à le recevoir, à l'inviter, à l'interroger.
Ouais, d'un point de vue journalistique, ça peut être intéressant de le confronter justement à ses propos antérieurs et de voir ce qu'il répond, sachant que la première vague, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au printemps, la région PACA avait été relativement épargnée et que là, c'est dans une situation complètement différente. C'est de là que la deuxième vague est repartie. Donc, c'est aussi intéressant parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas de réanimation dans son IHU. Mais c'est intéressant de voir comment il l'interprète, comment il voit les choses aujourd'hui.
Question à tous les deux. Est-ce qu'il y a, je cite Patrick Cohen sur le plateau de C'est à vous avant-hier, est-ce qu'il y a des oreilles et des caméras complaisantes? Autrement dit, en tant que professionnel, est-ce que vous invitez parfois ces médecins rassuristes pour faire de l'audience? Bastien Morassi, puis ensuite Margot.
Non, mais d'aucune façon, comme je vous le dis, nous, on demande aux scientifiques qui viennent sur le plateau d'avoir une expertise argumentée, de s'ils viennent débattre ou s'ils viennent proposer quelque chose sur notre antenne, une courbe ou quelque chose, ça doit forcément être documenté, argumenté et scientifique.
Au-delà de ça, non, mais le sens de ma question, vous l'avez compris, c'est que Didier Raoult, on sait que c'est un personnage. Sur LCI mardi, il a fait 540 000 téléspectateurs, ce qui est un bon score. Il a même déjà fait 720 000 téléspectateurs. Donc on sait que c'est une bonne audience garantie, assurée, quand bien même il y a certains excès. Et parfois, c'est peut-être parfois ces excès qui font que ça fait de l'audience. Que pensez-vous de ce reproche, Margot de Fauville, fait par Patrick Cohen, qu'il y a des oreilles et des caméras complaisantes à certains discours, y compris de la part de scientifiques?
Moi, je pense que l'important, c'est la contradiction. L'important, c'est la contradiction, c'est de rester factuel, d'avoir des chiffres, des données à opposer, quelle que soit la personne en face. Ça, c'est vraiment le plus important à mes yeux.
Autre exemple de médecin qui s'est trompé, c'est l'épidémiologiste Martin Blachier. Vous en parliez tout à l'heure, Bastien Morassi. Martin Blachier, qui a reconnu son erreur à la différence des autres. Il a dit, je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de morts cet hiver. Je ne crois pas à cette prévision alarmiste. Des mesures prises en France, en Espagne, permettront de juguler cette reprise. Il y aura quelques décès supplémentaires, mais il n'y aura pas de mortalité conséquente, disait-il mi-septembre. Et un mois et demi plus tard, c'est pas beaucoup plus tard, un mois et demi plus tard, il reconnaît son erreur, mais avec une explication surprenante.
Ça, c'est sûr que ma prédiction n'était pas bonne, puisque c'est absolument pas la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a eu un plateau extrêmement court, et c'est reparti encore beaucoup plus fort que ce que c'était juste avant. Il y a eu quelque chose que j'ai pas anticipé, c'est l'arrivée des mauvais jours.
Franchement, il n'est pas vu venir l'automne. Comment on peut rester crédible en disant « j'ai pas vu venir l'automne et les mauvais jours » ?
Quand on parle beaucoup, on risque plus de se tromper déjà, ça c'est sûr.
Je rebondis sur votre phrase. Ils parlent trop, on leur donne trop la parole.
C'est compliqué, je vous dis encore une fois, tous ceux qui ont dit « je sais » ou « ça va pas se passer », ils se sont trompés dans cette épidémie. Je pense que le maître mot, c'est l'humilité. Même quand on regarde les projections, les avis du conseil scientifique de l'été, il est hautement probable qu'il y ait une deuxième vague. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas écrit noir sur blanc, il y aura une seconde vague. Il faut toujours rester extrêmement prudent vis-à-vis de ce virus qui nous réserve des tours. On sait qu'il est extrêmement sournois. C'est vraiment l'un des principes clés.
Et ici, on est une émission média. Ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un changement dans le traitement de l'information, particulièrement pour l'information scientifique, puisque la médecine, c'est de la science. BFM a créé un service santé à l'occasion de la crise.
Enfin, il était déjà créé.
Oui.
Ça fait 6 ans que je m'en occupe.
Ah bon, d'accord.
Et il s'est étoffé, en revanche.
D'accord. Et c'est vous qui l'avez demandé, c'est à la demande express, c'est la nouvelle direction
Il y a pas trop le choix, en fait.
Marc-Olivier Fougel, comment ça s'est passé?
Le 24 janvier, premier cas enregistré sur le sol français et européen même. Après, tout s'est accéléré. On est toujours en binôme avec le docteur Alain Ducardonnet, avec qui je travaille, qui est cardiologue et qui consulte encore. Mais notre binôme n'a pas suffi. On a tenu quelques semaines de front. Mais comme je vous l'ai dit, 20 heures d'antenne sur 24 et beaucoup de demandes, y compris le week-end. On a travaillé les week-ends un bon moment. Et puis après, on a eu du renfort. Là, on est plus 5 journalistes à temps plein, 2 médecins consultants, et on en aura peut-être encore davantage.
Bastien Morassi, combien êtes-vous à LCI et à TF1, puisque les deux rédactions sont interdépendantes, à traiter de la santé spécifiquement ?
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Nous, c'est plutôt, il faut compter avec le groupe TF1. En fait, nous, on s'appuie sur Gérald Kirzek, qui est un médecin urgentiste.
Que vous nous avez piqué à Europe 1.
Oui, qu'on vous...
Je vous le dis juste.
Qu'on vous a piqué, mais on pourra le traiter de temps en temps, si vous voulez. Et puis, vous savez, on est lié aussi avec le site Doctissimo, donc, qui fait partie du groupe TF1. Donc, on a toute une plateforme TF1 LCI. Donc, vous dire un chiffre, je peux pas vous le dire comme ça, mais c'est toute une plateforme qui nous permet de relayer, notamment de faire remonter des infos santé. Moi, je pense qu'on a beaucoup de médecins aussi qu'on voit pas sur les plateaux, ça je voulais insister là-dessus.
Allez-y.
Qui nous font remonter justement des tensions dans les hôpitaux, dans les EHPAD, et ça c'est important pour nous justement pour faire le point sur la situation.
Merci beaucoup Bastien Morassi, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de LCI, Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV depuis 6 ans, je ne me trompe pas, merci beaucoup.
Merci.
Dans un instant, on continue à parler santé, nos invités seront le directeur du Point Étienne Jernel et un journaliste de l'Hebdo Jérôme Clément, ils sortent le palmarès 2020 hôpitaux et cliniques. Palmarès déjà controversé et pourtant très attendu, ceci expliquant peut-être cela. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Étienne Jernel.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la publication du magazine Le Point. Avec vous, Jérôme Vincent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Point. Vous avez coordonné un dossier très attendu, le palmarès 2020 des hôpitaux et cliniques avec François Mali et 3 autres journalistes de la rédaction. Sous-titre, 1400 établissements au banc d'essai pour 80 spécialités. C'est la 24e année consécutive que ce classement sort. Vous l'avez repoussé à cause du Covid. Il a été repoussé de quelques semaines, c'est ça ?
Il a été repoussé parce qu'il fallait aller chercher les infos. Jérôme peut vous répondre. C'était très compliqué, évidemment, avec un système de santé sous extrême tension, d'aller récupérer les infos et de faire ce travail qui est titanesque.
Ça va même plus loin. Certains professionnels vous ont expressément demandé, je vais citer la plupart des instances de l'hôpital public, la Fédération hospitalière de France, les conférences, directeurs généraux du CHU et j'en oublie, vous ont expressément demandé de ne pas publier ce classement. Vous n'avez pas cédé. Pour quelle raison ?
Exactement. Au printemps, ces différentes instances qui représentent les hôpitaux français, administrativement et médicalement parlant, et universitairement parlant, souhaitaient que nous fassions une année blanche. Très précisément.
Quel était leur argument et quel fut le vôtre ?
Leur argument était, leur argument officiel était que c'était une année exceptionnelle. Oui, c'est effectivement une année historiquement exceptionnelle.
Je vous interromps tout de suite. Si un argument, quand on dit un argument officiel, c'est qu'il y avait un argument officieux.
Pour moi, l'argument officieux, c'est que malgré que ce soit la 24e édition, ce palmarès dérange dans un pays où la valeur sacro-sainte mise en avant que tous les hôpitaux, que toutes les cliniques se valent partout en France est fausse, quoi. Et ça dérange de démontrer que c'est faux.
Vous êtes d'accord avec ça ? Parce que c'est vous, en tant que directeur de la publication, qui prenez la décision de publier ou non publier Étienne Jernel.
Bien évidemment, c'est un travail d'investigation, c'est ce qu'il faut se dire. C'est un travail d'investigation et de service au lecteur. C'est pas fait pour plaire, c'est fait pour rendre service au lecteur. Et évidemment, depuis le départ, Jérôme peut vous en parler, il y a eu des réactions, il y a eu même des procès à une époque. Voilà, c'est normal, le journaliste, c'est du journaliste, le vrai journalisme, c'est-à-dire qui gratte et qui dérange.
Alors, vous avez traité des données brutes à l'échelle nationale, je sort cette info de votre texte. Vous dites avoir adressé un questionnaire à 533, non même à plus d'un millier d'établissements, 240 hôpitaux et 321 cliniques vous ont répondu. Ceux et celles qui ne vous ont pas répondu ne sont pas dans le classement ?
Le questionnaire sert pour à peu près la moitié des classements que nous publions. Pour 100% des classements que nous publions, la source d'information est la base de données des séjours hospitaliers qui sert d'ailleurs au paiement à l'arrivée des hôpitaux et des cliniques, donc qui est extrêmement bien rempli.
Alors je dois dire qu'on a rarement vu quelque chose d'aussi complet. Il y a le tableau d'honneur des 50 meilleurs hôpitaux de France, des 50 meilleures cliniques de France ensuite. Et puis ensuite, c'est détaillé spécialité par spécialité. Je ne peux pas tout citer, il y en a une centaine. Juste dire pneumologie, audition, sclérose en plaques, calcul urinaire, chirurgie du pied, chirurgie de l'épaule. Dans les deux cas, vous distinguez les résultats des hôpitaux de ceux des cliniques. Appendus, chirurgie de l'obésité, hernie de l'abdomen, cancer du foie, du pancréas, stimulateur cardiaque, tumeur cérébrale, cataracte, rétine, strabisme. Ça se termine par les accouchements normaux et les accouchements à risque, qui sont chez vous deux catégories distinctes. distinctes. On est dans l'actu. Il n'y a pas de catégorie traitement du Covid. Pour quelle raison, alors que justement, vous êtes un hebdo d'actu?
Alors non, nous ouvrons les 75 pages par 9 pages, je crois, de mémoire, consacrées au Covid, d'abord, par un long reportage dans 5 hôpitaux de France, et par un premier classement consacré, comme chaque année d'ailleurs, ou comme presque chaque année, à la prise en charge des maladies infectieuses, dont le Covid.
D'accord. Mais il n'y a pas un classement Covid stricto sensu.
Non, il n'y a pas un classement Covid stricto sensu.
Donc voici ma question, pour quelle raison?
Pour une raison simple.
Parce que tout le monde se serait jeté, évidemment, sur le classement Covid.
Bien entendu.
Puisqu'il y a des techniques, les hôpitaux ont parfois des techniques différentes. Certains mettent les malades de telle façon, d'autres de telle autre. Certains les intubent, certains non.
Bien entendu. Je comprends. Je m'y attendais. Je vous ai dit donc que notre source d'information principale pour 100% des classements est la base de données hospitalière. Cette base de données est remplie jour après jour dans chaque hôpital, chaque clinique. Ouais. Donc nous disposons, quand nous commençons notre travail, en général au mois de janvier ou février, ce qui a été le cas cette année, même si on l'a interrompu en mars-avril pour traiter l'actu du Covid journalistiquement. En janvier-février, nous disposons de la base de données hospitalière de l'année N-2, toujours. Donc, cette année, nous traitons des données de l'année 2018. Nous ne traitons pas les données hospitalières de l'année en cours. Et d'ailleurs, ces données sont traitées par personne actuellement. Elles seront traitées dans les semaines et les mois à venir, notamment par des équipes scientifiques pour suivre le Covid scientifiquement.
Alors, quel est le classement désormais des hôpitaux de France, des cliniques de France? On va le savoir tout de suite. Vous restez avec nous, Jérôme Vincent, journaliste au Point et le directeur de la publication de l'hebdomadaire, Étienne Jernel. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Le Point qui publie le palmarès 2020 des hôpitaux et des cliniques. Nous sommes avec Étienne Jernel, le directeur de la publication, et Jérôme Vincent, journaliste. Vous avez été médecin?
On reste médecin. Je suis diplômé en médecine, oui, effectivement. Mais je suis journaliste professionnel depuis 34 ans.
Alors, il y a le classement des 50 meilleurs hôpitaux de France. Avant qu'on détaille les premières places, le classement, quel enseignement on peut tirer de ce genre de classement?
L'enseignement principal, c'est qu'on a la chance en France d'avoir, même s'il est dans la tourmente, un très bon système hospitalier, public et privé, composé de centaines et centaines d'établissements, avec une doctrine qui sont tous égaux. C'est pas vrai. Le sens profond de notre classement, et dès le début, où on faisait les meilleurs et les pires, c'est que malheureusement, c'est comme ça, c'est injuste. Il y a des établissements qui sont mieux dotés en moyens humains et en moyens matériels et qui rendent un meilleur service de soins à la population.
Alors, les premières places sont occupées par des CHU, je vais les donner. En premier, c'est Bordeaux, ensuite Lille, ensuite Toulouse, ensuite Nancy, 5e Strasbourg, 6e Montpellier, 7e Nantes. Le premier hôpital parisien arrive seulement en 8e position, la Pitié-Salpêtrière. Comment ça se fait? Ça va contre l'idée reçue.
C'est un petit peu mécanique et méthodologique. Les grands hôpitaux parisiens sont séparés les uns des autres. La Pitié-Salpêtrière, Avicenne à Bobigny, Européen Georges Pompidou à Paris, Crémin-Bicêtre, Mont-d'Or à Créteil, etc. Tout. En province, le CHU est plus unifié. Ça lui donne mécaniquement un peu au CHU de province un peu un avantage par rapport à notre méthode de classement. Les hôpitaux parisiens ne sont pas fondamentalement ni meilleurs ni moins bons que les grands CHU de province.
Alors là, je ne comprends plus rien. Vient ensuite le tableau d'honneur des 50 meilleures cliniques de France. La première, c'est la Polyclinique de Reims-Bézanne. La deuxième, Santé Atlantique à Saint-Herblain, c'est à côté de Nantes. La troisième, c'est la clinique Saint-Grégoire à Saint-Grégoire, c'est dans l'Ille-et-Vilaine. J'ai bien cherché. Sur 50 cliniques, il n'y a pas une seule clinique parisienne. Simplement à la 28e place, l'hôpital privé d'Antony, qui se trouve dans le 92, donc en région parisienne. Là encore, comment ça se fait?
C'est très simple. Là aussi, les cliniques privées en France ont, depuis une vingtaine d'années, subi des changements énormes et une amélioration énorme. En gros, elles ressemblent un peu à un hôpital public. Elles sont installées là où c'est moins cher, des grands terrains en banlieue, des gros investissements humains pour rassembler les équipes, matériel, pour acquérir du matériel qui est indispensable pour faire de la grande médecine ou de la grande chirurgie et qui coûte très cher. Les cliniques parisiennes sont restées des petites cliniques à l'ancienne. dans des hôtels particuliers, comme dans les années 70, 80, 90.
Ça va complètement contre la doxa, ce que vous dites. Vous voulez dire qu'il y a de l'argent en province et il n'y a pas d'argent à Paris?
Les prix ne sont pas les mêmes non plus. Enfin, on va rentrer dans une discussion un peu technique. Mais
non, mais c'est très intéressant, c'est votre sujet. C'est le cœur de votre sujet.
Construire sur des fonds privés, donc une clinique privée moderne à Paris comme en province, c'est financièrement très, 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 très coûteux. C'est pas possible.
Et donc, on est moins bien soigné?
Non, il y a des hôpitaux publics. Et,
non, mais prenons le cas des cliniques. Parce que le terrain coûte plus cher, on est moins bien soigné dans les cliniques parisiennes. Je vais vous dire à quoi je pense. Je pense aux Gilets jaunes qui disaient c'est un désert médical en région, on est mal soigné, il n'y a que les Parisiens, il n'y en a que pour les Parisiens. C'est là-bas qu'est l'argent, c'est là-bas que sont les meilleurs.
Non.
Et votre classement indique l'inverse.
Mais non, je ne comprends pas très bien. Les meilleurs établissements de soins en région parisienne sont, comparativement à la province, des établissements publics ou participants au service public hospitalier.
Compris.
En province, il y a une concurrence moins inégale entre des cliniques privées et des hôpitaux publics.
En juin, le magazine américain Newsweek a publié, comme tous les ans, son classement des 100 meilleurs hôpitaux à travers le monde. Donc il a fait aussi, c'est sur 21 pays, donc il a aussi classé les meilleurs hôpitaux en France. Et la Pitié-Salpêtrière arrive comme meilleur hôpital de France. Et vous, on ne le trouve pas dans votre classement, il n'est pas premier. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre. Ma question est la suivante. Comment travaillez-vous et comment eux travaillent-ils? Pourquoi on n'a pas le même résultat? Alors que si on fait le top 50 et que ce soit le Billboard ou que ce soit OK Podium, on a le même classement des ventes. Voilà, pardon de dire les choses clairement.
Eh bien, parce que c'est d'abord c'est plus compliqué. Excusez-moi, on ne fait pas uniquement un classement, ni Newsweek, ni nous, sur un seul critère. Les ventes, par exemple, ou le nombre de patients soignés. Voilà. Ensuite de cela, j'ai la prétention de dire que le classement du Point est plus fouillé que celui de Newsweek. Pour des raisons simples, d'abord, hein. Newsweek s'intéresse à, vous l'avez dit, 21 ou 25 pays, voilà, avec une méthodologie assez fruste, que je connais assez bien, donc ça donne un résultat légèrement différent. Excusez-moi, quand même, je veux quand même dire que la Pitié-Salpêtrière, classée, vous dites 8e, je n'ai pas le rang en tête, au classement général, c'est un classement magnifique. Il y a très peu de différence entre être premier ou être 8e, quand on est classé sur 80 spécialités, précisément.
Étienne Jernel, le palmarès des hôpitaux et des cliniques occupe près de 80 pages dans le magazine de cette semaine. Vous avez augmenté la pagination ou vous avez un peu réduit la voilure sur d'autres sujets?
Ah non, on a augmenté la pagination, de toute façon, il ne faut pas lésiner.
Quel sursaut des ventes vous constatez en général quand sort ce numéro très
attendu?
C'est
énorme. C'est plus de 100 000 exemplaires. En général, c'est la meilleure vente de l'année, sauf cas d'actu ou scoop exceptionnel comme la grande interview de Macron d'il y a 3 ans.
Ouais.
Mais sinon, c'est la meilleure vente depuis 20 ans de manière presque systématique. C'est un classique, quoi. Les gens l'achètent, y compris des professionnels d'ailleurs, beaucoup de professionnels le gardent. C'est la référence du marché. Enfin, c'est de toute façon, c'est la référence absolue.
Il y a même des professionnels qui le critiquent et qui l'achètent et qui le gardent. Dernière question pour vous, Jérôme Vincent. Quand va sortir le premier classement qui va intégrer le traitement spécifique du Covid? Ça sera plutôt 2022, si j'ai bien compris, avec la latence et le recul qu'il faut avoir.
Normalement, ce sera 2022. Peut-être que l'année prochaine, si on commence un peu plus tard notre travail, on pourra disposer des données de l'année N-1, c'est-à-dire de cette année 2020.
Je lance déjà l'invitation. Merci beaucoup Étienne Jernel, merci Jérôme Vincent. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain, Bertrand Chameroy pour son écran de veille, notre invité François Hollande, le président, pour un livre qui explique les grandes missions de l'État aux plus petits et aux plus grands, et puis dans les indispensables, un très beau manuscrit d'Albert Camus et une série politique, mais aux États-Unis. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.